Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Julia Vignali.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Allez, vous êtes dans Bien fait pour vous, votre émission Bien-être tous les jours en direct de 11h à 12h30. Ici, notre mission tous les matins, c'est tout simplement que vous vous sentiez bien ou mieux après nous avoir écoutés. Alors aujourd'hui, Julia, par quoi va-t-on démarrer?
Eh bien Mélanie, aujourd'hui, nous allons commencer comme tous les jours en tentant de répondre à une question de notre vie quotidienne. La voici, la voilà, quels sont les conseils essentiels pour rester en bonne santé? Parce que c'est vrai que depuis un an, on ne parle plus que de cette pandémie et ça n'est pas fini. Mais pour autant, on a toujours des problèmes de cœur, des problèmes de dos, de poids ou encore d'autres maladies. Alors on va reprendre les basiques aujourd'hui pour être au top de notre forme. Une émission en partenariat avec le dernier numéro du Figaro Santé.
Ensuite, à 11h35, on restera dans la santé avec un focus sur celle des femmes enceintes puisqu'on va vous parler de la campagne lancée par l'Agence du médicament. Le slogan, c'est « Enceinte, les médicaments, c'est pas n'importe comment ». Et c'est pas anecdotique du tout comme sujet parce que près de 40% des femmes qui attendent leur premier bébé prennent des médicaments sans même demander l'avis d'un professionnel. Une attitude qui n'est pas sans risque. La directrice générale de l'ANSM, le docteur Christelle Ratigné-Carbonneil, sera en studio avec nous pour en parler.
Ensuite, Mélanie, dès midi, on ouvrira notre table des tendances avec nos chroniqueurs du jour. D'abord, Marion Sauveur pour la chronique gastronomie. Elle va nous apprendre des tas de choses sur la courge avec des conseils évidemment pour la cuisiner de façon originale et simple. Et puis, Philippine Darblay, notre experte art de vivre, nous dira que chez les hommes, la barbe est encore très à la mode. Elle nous expliquera comment il faut en prendre soin.
Et enfin, Julia, pour finir cette séquence tendance, ce sera Elsa Lévy qui clôturera le bal aujourd'hui. Et d'ailleurs, elle va nous faire danser, je crois, puisqu'elle va nous faire découvrir la mode des danses version Bollywood.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, bienvenue à nos côtés. Et donc ce matin, dans notre émission Bien-être, on va essayer de répondre ensemble à cette question. Quels sont les conseils essentiels principaux, on va dire, pour rester en bonne santé?
Eh oui Julia, c'est vrai que depuis un an et demi, la santé c'est surtout le Covid, comment l'éviter, se faire vacciner, etc. Mais il ne faut pas oublier pour autant le reste, les autres maladies, protéger notre cœur par exemple au quotidien, éviter le diabète et bien d'autres problèmes médicaux. Mais avant de détailler tout ça, on va se tourner comme chaque jour vers notre reporter humoriste de choc, il respire la santé et la bonne
évidemment,
humeur.
Évidemment, voilà. Bonjour tout le
c'est
monde.
C'est bien sûr Clément Lanoux, bonjour
merci,
Clément.
Mais merci de vous tourner vers moi pour cette question. Vous auriez pu faire appel à un coach sportif, à un nutritionniste.
Non, et non c'est
moi
qui vais répondre. On s'est dit que c'était
vous, voilà. Je pense, déjà quand j'ai annoncé à mes proches que je faisais une émission santé et bien-être, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, c'est une blague.
Mais vous donc, respirez voilà. La santé.
Bah, je respire, la, oui. Je sais pas la bonne humeur, mais en tout cas je suis pas seul. J'ai tous les Français derrière moi et j'ai un micro, donc je vais poser des questions et je leur demande. Et quand j'ai demandé la première réponse que j'ai eue, je leur ai demandé comment rester en forme. La première réponse, c'était celle-ci.
Moi, mon petit secret pour rester en forme, je crois qu'il n'y a pas 36 000 solutions, c'est de voir régulièrement son médecin et de faire des check-up réguliers parce que la prévention, c'est le seul moyen de rester en forme, à mon sens, et donc c'est de garder le lien avec son médecin.
Alors, bon, une première de la classe.
Règle
pour
numéro 1,
oui.
Je la note, donc voilà, voir régulièrement le médecin, n'ayons pas peur d'aller le voir. Règle numéro 2, c'est les enfants qui me l'ont donné, un truc très très important à
manger
faire.
Manger des bonbons.
Conseil numéro 1, il y a le mot manger dedans.
Bien manger au self, enfin, parce que moi je suis au collège et j'ai même une amie, elle a tout le temps faim parce qu'elle mange pas le matin.
Ah ouais.
Et donc quand elle est au self, même si c'est dégueulasse, elle mange tout parce qu'elle a trop faim.
On embrasse évidemment tous ceux qui nous écoutent en ce moment dans les établissements scolaires. Parfois c'est bon à la cantine, il y a des cantines où c'est moins bon. J'en ai profité, je suis sorti un peu du sujet, j'ai demandé aux enfants, mais vous préférez manger où en vrai? Chez vos parents ou à la cantine?
Chez mes parents parce que la cantine était dégueulasse.
Voilà. Je suis pas au poisson. Après, si vous tenez pas à la vie, vous pouvez.
Voilà, c'est
pas
la vérité sort de la bouche
santé,
des enfants.
Manger à la cantine,
voilà,
quoi.
Non, il y a des endroits où ils font énormément d'efforts et c'est très bon. On le sait. Après, il y a une autre chose à faire évidemment. C'est le premier mot qui vient quand on pense à tout ça. Il y a l'alimentation, il y a le médecin, mais il y a surtout le sport. Donc, j'ai parlé avec les enfants l'importance de faire du sport et j'ai eu un débat. Ils ne comprenaient pas pourquoi les adultes étaient prêts à mettre de l'argent pour aller dans des salles de sport, s'inscrire, ne jamais y aller, sachant pour eux, le sport, c'est un truc gratuit qui se pratique dehors. Donc, j'aurais demandé les enfants pourquoi les adultes payent pour faire du sport.
Parce que c'est des pigeons.
C'est-à-dire?
Bah, je sais pas, tu peux faire du sport sans payer.
C'est vrai. Ok, mais là, si tu veux faire des pompes et tout, on va te regarder bizarre et tout. Et en plus, à la salle de sport, genre, il y a une bonne ambiance et tout, t'es tranquille, t'es en intérieur, t'es au calme, tu fais ton sport et tu repars quand tu veux.
La salle de sport, on peut montrer nos biscottos tout en séduisant les filles.
Moi, je pense que la salle,
Pour les mecs, c'est plutôt pour se rincer l'œil.
Alors le problème de la salle de sport apparemment, c'est que quand on y va, les gens se regardent énormément. Et quand on a, comme moi, pas mal besoin de faire de sport,
pas mal de muscles, quoi,
c'est pas mal de muscles. Ouais. Non, il y a une expression que les jeunes ont inventée pour ça. Quand on est comme moi avec un peu de ventre et que on a fait pas du sport
régulièrement,
c'est plus violent que ça. Ça s'appelle, vous allez voir, un corps de lâche.
Oh, t'as des corps de lâche, des corps de Madeleine. Moi, d'abord, je te conseille de faire chez toi. Et après, dès que tu commences à te former des petits biscottos, des petits abdos, et ben tu vas à la salle de sport. Et là, tu deviens un mec populaire.
Ah, voilà. Mais non, vous n'avez pas un corps de lâche. Je suis pas d'accord.
Pas
et vous
non.
êtes
ni
super
Madeleine.
Populaire.
Oh, ouais, très, très, très. En tout cas, j'espère, je compte sur vos conseils sur cette émission pour savoir comment vraiment bien rester en forme.
Merci franchement, hein, Clément Lanoureux, c'était super. Ouais, on vous retrouve demain avec un nouveau reportage. Mais vous pouvez rester encore un peu avec nous. On va accueillir à présent nos deux invités pour notre dossier du jour en partenariat avec le dernier numéro du Figaro Santé magazine, dont vous êtes la rédactrice en chef d'ailleurs, Aline Richard. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, justement, on entend un peu moins parler de Covid, mais Aline, les autres soucis de santé, eux, n'ont pas disparu. Ce magazine, c'est en quelque sorte un guide pour être en bonne santé à tous les points de vue. On va retrouver quoi exactement dedans ?
Alors, effectivement, Covid ou pas Covid, on continue à être en bonne santé et parfois à tomber malade. Mm-hmm. Et en tout cas, on a besoin, comme le disent les enfants, de prévention, de bien manger, je dirais de bien dormir aussi, de faire de l'activité physique. Et nous, au Figaro Santé, on a voulu faire un numéro, un peu, si vous voulez, pense-bête, quasi pense-bête, avec des grandes rubriques. Alors, effectivement, le cœur, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, les articulations, comment avoir des articulations qui ne nous font pas trop mal. Le cerveau, donc tout ce qui est, si vous voulez, prévention des maladies, et qu'elles soient organiques ou psychiques. Nutrition, la cantine, la forme physique, on en a parlé, et puis l'immunité qui est quand même les gardiens de notre corps.
Bien sûr, une liste. Notre deuxième invité, c'est vous, professeur Claire Mounier-Veillé, vous êtes cardiologue et médecin vasculaire, chef de service au CHU de Lille et cofondatrice de la fondation Agir pour le cœur des femmes. Alors, dans le Figaro Santé, bonjour, vous êtes ma cardiologue préférée, je dois le dire. Alors, du coup, évidemment, j'ai oublié de vous dire bonjour.
Vous êtes presque mon émission préférée.
Merci pour le presque.
Et Mélanie Gomez, vous avez un très beau cœur.
C'est gentil. Voilà. Alors, dans le Figaro Santé, Claire, il y a un chapitre dédié au cœur, aux maladies cardiovasculaires, comme l'hypertension. C'est l'une de vos spécialités d'ailleurs. Et comment on l'évite déjà? Puisqu'on parle de prévention aujourd'hui, est-ce que manger moins de sel, par exemple, on a souvent ça en tête, c'est suffisant?
Alors déjà, effectivement, l'hypertension, c'est une maladie évitable. C'est une maladie de l'environnement. Et on a un petit peu d'hérédité, parce que quand on a deux parents hypertendus, ben le risque d'être hypertendu à 50 ans augmente. Mm-hmm. Et puis aussi des particularités avec le sexe, puisque nous, les femmes, on est conditionnées par notre situation hormonale, la contraception, la grossesse,
donc
la
ménopause. Donc même si Clément a un corps de lâche, on a plus de risques que lui d'en avoir.
Clément, le chapeau de la brioche ou le chapeau de la madeleine peut favoriser effectivement l'hypertension artérielle.
Je suis vendéen, la fameuse brioche vendéenne, c'est plus un hommage à une région qu'autre chose.
Donc effectivement, on peut l'éviter par l'alimentation, vous l'avez dit, le sel, ça c'est l'ennemi numéro un de l'hypertension artérielle. Il y a aussi l'alcool, et puis il faut pas oublier que le tabac, tabac accélère le vieillissement des artères. Donc, pour donner, si on veut, des chiffres, puisque nous sommes quand même 4 femmes pour un homme, eh bien, à partir de 50 ans, c'est une femme sur deux qui est hypertendue. C'est important de se dépister sans faire peur.
Et qu'est-ce que vous dites aux vieilles personnes qui font du sport, justement, pour faire baisser leur tension artérielle? C'est une bonne chose ou pas?
Alors, les vieilles personnes, qu'est-ce qu'on entend par vieilles personnes? Bah, sinon, j'en suis une.
95, 98, au-delà de 100.
Plus de 50 ans, non, je rigole.
On recommande de bouger. Mais de bouger, donc si vraiment on veut refaire de l'activité physique un peu plus encadrée, intensive, là il faut absolument un bilan cardiovasculaire, et pas que cardiovasculaire, ça peut être aussi un bilan articulaire, ostéo-articulaire, parce qu'on en parle dans le Figaro Santé, mais c'est important de faire un check-up pour vérifier qu'il n'y ait pas de contre-indication.
Et quel que soit l'âge, il n'y a pas par exemple un aliment miracle à l'inverse qui fait tout descendre et qui remet tout
manger
bien
des, au niveau manger des tomates.
Peut-être.
Et voilà. Et oui, manger des fruits et des légumes, ça fait baisser la pression artérielle. Et boire beaucoup, on ne boit pas assez. De l'eau.
Oui.
Enfin, de l'eau, des tisanes, ce que vous voulez.
Mais... Très bien. Voilà. Restez avec nous toutes les deux. On va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. On va s'intéresser notamment à un poison dont on parle souvent dans cette émission, le stress. Et oui, c'est très mauvais pour le corps et pour le cœur plus particulièrement. Et puis, on vous donnera aussi des conseils essentiels sur Europe 1 du côté de l'alimentation, ce qu'il faut absolument retenir et appliquer pour mettre toutes les chances de notre côté et rester en bonne santé.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre magazine dédié au bien-être, au mieux vivre et à votre santé, tous les jours en direct de 11h à 12h30. Et nous sommes toujours donc en train de répondre à cette question. Quels sont les conseils essentiels pour rester en bonne santé? Alors c'est large comme question, mais vous retrouverez tout en détail dans le dernier numéro du Figaro Santé, notre partenaire pour cette émission. Et justement, Aline Richard, vous en êtes la rédactrice en chef du Figaro Santé. Alors on parlait juste avant des conseils pour garder la forme sur le plan cardiovasculaire. On a parlé un peu d'hypertension. On va rester un peu là-dessus, sur le cœur, sur notre cœur. Ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'il y a un poison qui est finalement le stress et qui peut avoir un impact direct sur notre cœur et notre santé cardiovasculaire.
Oui, tout à fait. Alors, vous savez qu'il y a deux grands stress. Il y a des stress qui sont, je dirais, réactionnels, hein, qui viennent de notre évolution. Quand on voyait arriver une panthère noire, il fallait avoir une réaction physiologique qui nous permet de nous défendre. Et puis, vous avez un stress qui est malheureusement très commun dans nos sociétés, qui est le stress chronique. Ces deux stress se traduisent notamment par des réaménagements, des changements hormonaux qui peuvent être tout à fait délétères pour le cœur, mais pas que, hein, mais notamment pour le cœur. Et donc on peut arriver à un infarctus avec une poussée de stress extrêmement violente.
Alors on va éviter ça évidemment, puisqu'on parle justement de notre cœur. Bien, ce matin on a la chance d'avoir avec nous dans ce studio le professeur Claire Mounier-Veillé. Je rappelle que vous êtes chef de service au CHU de Lille et cofondatrice d'Agir pour le cœur des femmes. Comment on peut faire très concrètement pour diminuer justement ce stress si nuisible à notre cœur? Qu'est-ce que vous conseillez à vos patients? La méditation, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous-même, vous avez déjà essayé des petites choses sur vous?
Ah bah écoutez, on va utiliser le stress, c'est un S rouge qui dit attention à ma santé, feu rouge. Donc les S verts, eh ben, ça va être effectivement prendre le temps de prendre soin de soi. Donc c'est par exemple faire des pauses sieste le midi, sans forcément dormir, mais couper des écrans, se mettre au calme, seul, pendant un quart d'heure, ça peut suffire. C'est également, bon, on a parlé tout à l'heure de l'activité physique, mais l'activité physique, finalement, va faire sécréter des endorphines qui vont nous relaxer. Et donc, finalement, c'est un excellent anti-stress. Et puis après, c'est aussi garder cette notion de bienveillance, de sourire, de s'occuper des autres, de regarder les autres. Mais finalement, ça va aller contrecarrer cette rumination négative qu'on a dans notre cerveau, qu'on appelle reptilien, où finalement, on est très tourné vers le négatif. Et finalement, c'est s'ouvrir aux autres aussi. Ça fait partie de la gestion du stress. Mais le yoga,
la méditation, la
respiration aussi, cadencée dans un autre numéro du Madame Figaro, j'ai lu ça hier soir, il y avait plein de choses sur les rythmes de respiration.
Bien sûr, la cohérence cardiaque.
Voilà, ça va, d'un point de vue mécanistique, mettre au repos ce mauvais système nerveux qu'on appelle le système nerveux sympathique.
Claire, c'est surtout le cœur des femmes qui est sensible au stress particulièrement. Alors, et vous, les femmes, c'est votre priorité, notamment avec la Fondation.
Oui, c'est le troisième facteur de risque cardiovasculaire. Et c'est vrai qu'avec Thierry Drillon, nous avons cofondé Agir pour le cœur des femmes. Il y a un site internet qui est très fourni. Alors, je ne fais pas de publicité, mais vraiment, allez-y, puisqu'il y a des témoignages de femmes, il y a des techniques aussi pour gérer notamment son stress, son alimentation. Et surtout, on a mis en place une opération itinérante dans 5 villes en France cette année qui s'appelle le Bus du Cœur. On repart la semaine prochaine à La Rochelle et à Saint-Étienne, donc c'est les mercredis, jeudi, vendredi, et où là, il y a des ateliers
c'est
de
gratuit,
gestion du stress.
C'est gratuit,
voilà,
pour les
femmes. C'est gratuit, il y a un repérage des facteurs de risque, donc c'est destiné en première intention aux femmes en situation de précarité, mais d'ores et déjà, je peux vous dire que sur les 3 premières villes, Lille, Avignon, Marseille, dans 9 cas sur 10, le dépistage était justifié. Ah oui, donc on a sauvé déjà 600 vies, et ça c'est incroyable. Donc voilà, donc pour ceux qui habitent La Rochelle, et Saint-Étienne, ben on vous attend, venez nombreux,
vous arrivez.
On est là pour vous.
Alors Aline, on va passer à un autre axe majeur pour rester en bonne santé, c'est la nutrition. Comment savoir déjà, première question, que notre corps a faim? Parce que c'est vrai qu'on mange souvent machinalement, on grignote de plus en plus, mais comment repérer les vrais signes de la faim?
Alors écoutez, c'est tout bête. Vous faites attention à vous, vous vous écoutez, et votre corps va vous dire si vous avez faim ou si vous êtes rassasié. Hein. C'est encore une fois l'effet d'hormones. Hein. On ne va pas rentrer dans les termes techniques, mais il y a tout un cycle. Il y a un cycle faim, rassasiement, repos et refaim, et simplement écoutez-vous, ne mangez pas, surtout ne mangez pas de façon automatique.
Oui. Devant la télé, sans être conscient de ce qu'il y a dans l'assiette.
Il y a une autre chose qu'on peut dire aussi, qui est un peu plus fine, c'est que écoutez-vous et sachez détecter les perturbateurs. Par exemple, quand on est stressé ou on vient de s'engueuler avec votre copain ou votre copine, etc., etc., on a tendance à vouloir compenser. Et il s'agit pas de se dire que nous sommes des surfemmes ou des surhommes et que nous n'avons pas d'émotions, on en a, et heureusement, on n'est pas des machines, mais simplement les repérer permet de pas se précipiter, ou alors vous précipitez, mais vous savez que vous précipitez, c'est pas non plus un drame international.
Oui, bien sûr. Moi, pour me détendre, hier soir, j'ai fait des cookies à 22h, je pense que c'était pas la bonne chose à faire pour rester en bonne santé, effectivement. Alors, on va voir justement, puisqu'on parle de nutrition, quels sont les bons aliments dans le Figaro Santé, vous en parlez de ces fameux super aliments. Aline Richard, quels sont-ils et en quoi ils sont si géniaux, ces super aliments ?
Alors, je tiens à préciser un peu les choses, parce que les super aliments, l'aliment miracle, ça n'existe pas. Hein, soyons clairs, ça serait s'il y avait une pilule, si vous voulez, d'un coup, vous la consommez, et puis et tout irait bien. Santé, non, ça n'existe pas. En revanche, vous avez effectivement pléthore, hein, beaucoup d'aliments qui sont intéressants pour, par exemple, prenez les carottes, toutes simples carottes qui sont riches en antioxydants, en précurseurs de la vitamine A. C'est très bon pour les yeux et pour la peau. Donc, vous voyez, par exemple, la simple carotte, une petite salade de carottes avec un filet d'huile d'olive,
c'est
pas trop de sel.
C'est en fait une super carotte.
Eh bien, c'est une super carotte.
Bah ouais, vous êtes une super carotte aussi, mais
parce que je mange orange. Non, mais n'importe quoi.
Oh non, professeur, moi j'avais quand même une question sur le sucre. Est-ce que vous pensez qu'il faut vraiment le bannir, ce sucre, ou est-ce qu'on peut continuer à en manger pour être en bonne santé?
Alors déjà, il faut garder à l'alimentation plaisir. Parce que si on fait que des faut pas, finalement on fait rien. Donc non, le sucre on peut en manger, mais c'est vrai qu'il faut... Enfin, c'est plutôt les sucres naturels qu'on aime bien. Si on veut sucrer un yaourt, vous me mettez du miel par exemple, qu'un sucre blanc.
D'accord.
Donc, mais pour les super aliments, je voulais rebondir, parce que j'ai vu une émission cette semaine, où on parlait de l'huile d'olive et de ses bienfaits.
Oui.
L'huile d'olive, c'est extrêmement bon, notamment pour prévenir l'ostéoporose. Mmh. Et tout ce qui est sauge, finalement on dit ne salez pas. On a parlé du sel,
des épices ou des herbes aromatiques.
Ce sont également des aliments magiques qui vont protéger notre santé, qui vont aussi prévenir finalement vieillissement articulaire, osseux et cardiovasculaire.
Bon, on va terminer par les conseils essentiels du côté de l'activité physique, du sport, tout ce qu'on peut faire pour rester en bonne santé. Là encore, professeur Claire Mounet-Veillé, on va pas dire ce sport, c'est celui qu'il faut faire. Pour ce qu'il faut en fait finalement, c'est juste bouger, parce que c'est sûr que la sédentarité, ça s'est prouvé, c'est l'ennemi de notre cœur, de nos vaisseaux, de notre santé en général. Mais comment on sait qu'on est sédentaire?
Alors déjà, sédentaire, c'est rester assis au moins 6 heures par jour.
On fait ça avec Julien.
Oui, mais faut vous lever. Par exemple, pourriez parler à votre micro debout.
On va la faire debout.
La tête un peu penchée. Ouais, voilà. Non, mais sérieusement.
Mais les Américains font ça. Ils ont des bureaux debout et restent debout.
Il faut trouver des moyens d'animer cette émission debout. Alors.
Ensuite, effectivement, c'est pratiquer une activité physique qui nous plaise. Et finalement, c'est soit on fait ce que quand on disait
vous allez rester comme ça toute l'émission.
Non, c'est pas 10 000 pas par jour. C'est 3 000 pas par jour. Ou en fait, c'est tous les jours bouger. Au moins 30 minutes par jour et 3 fois par semaine, une activité un peu plus intense où on transpire.
Ça permet quand même de rester a priori en bonne santé.
Où on a envie de se faire plaisir, c'est ça qui est important.
Bien sûr, mais on peut dire que le sport c'est un médicament ou on va
C'est un sportif médicament, je dis ça à mes patients. Il y a même sport sur ordonnance.
Absolument, absolument. C'est d'ailleurs une découverte assez récente de la science. On s'est aperçu que dans des pathologies telles que le cancer du sein, par exemple, il y a un effet prouvé, un effet curatif prouvé. C'est très important. Et puis au quotidien, effectivement, comme disait la professeure, on peut tout simplement bouger, faire une petite marche à pied. Se faire plaisir, et puis ce qui est bien, c'est une petite routine, vous voyez, parce qu'il faut pas que ce soit une obligation, parce que sinon ça ne marche pas.
Faut que ça rentre dans les habitudes
complètement.
C'est le
gamin qui parle de la salle de sport, c'est tout à fait ça. mais si c'est juste vous prenez l'arrêt de bus juste d'avant,
elle fait ça, Mélanie Gomez, elle descend deux arrêts de bus avant.
Et c'est très bien, et puis vous le faites pas s'il pleut à cordes.
Non, avec un parapluie on peut marcher, c'est très agréable.
Tout à son ménage, c'est faire de l'activité physique,
bien sûr. C'est pas moi qui fais beaucoup de ménage.
C'est important, tout ce qu'on dit aujourd'hui, et je prends 30 secondes pour dire que c'est important ce que vous faites pour la médecine préventive. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien gentil de financer de l'éducation thérapeutique dans l'insuffisance cardiaque quand on a une jambe coupée. Alors c'est 6 simples dans 8 cas sur 10 on peut éviter, en repérant. Et finalement des cahiers comme le Figaro Santé, comme vos émissions, bah, c'est vrai qu'on est des militants, mais c'est important que, et finalement le milieu de l'entreprise a très bien compris, puisqu'ils financent le bus du cœur, ils ont compris, ces chefs d'entreprise, surtout avec le confinement, que finalement, tout ce que vous faites au quotidien, et bah vous sauvez des vies. Mais et un grand merci pour ça.
Bah merci à vous, mesdames. On va rester encore un peu ensemble. On a d'autres questions hein, pour vous et nos auditeurs aussi. On va leur répondre juste après. D'ailleurs, je vous le rappelle, c'est le moment. Vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram de l'émission ou encore au 3921, notre répondeur.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes toujours ensemble pour appliquer les conseils au quotidien pour être en bonne santé. Un dossier en partenariat avec le dernier numéro Figaro Santé dont vous êtes la rédactrice en chef, Aline Richard. Elle est également à nos côtés en studio. C'est le professeur et cardiologue Claire Mouni-Éveillé.
Bonjour.
Rebonjour, mesdames. Alors, on va passer aux questions de nos auditeurs et on va commencer par une auditrice. C'est Clara sur Instagram qui nous dit « Ma maman de 73 ans vient d'avoir un infarctus suivi d'un triple pontage. Elle vient de rentrer chez elle, mais ses médecins lui ont dit qu'une partie de son cœur était nécrosée. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pensez-vous qu'elle pourra jardiner à nouveau un jour? C'était sa passion jusque-là. Professeur?
Alors déjà, nécrosée, ça veut dire qu'effectivement, il y a les petites cellules du cœur qui sont décédées, qui sont mortes, parce qu'elles n'ont pas été perfusées pendant au moins 3 heures. Mais rien n'est impossible. Les autres parties du muscle cardiaque, le moteur du cœur, eh bien, vont compenser. Ce qu'il faut pour cette dame, mais je pense qu'elle a dû y aller, en tout cas, si elle n'a pas été, je vous conseille d'y aller, aller en rééducation.
D'accord.
Que ça réduit de 53% le risque de récidive.
Rééducation du cœur?
Du cœur, parce que c'est un muscle. Vous faites une entorse, vous allez voir le kiné.
Mais ça se passe comment? C'est de la réadaptation physique. On se remet en mouvement, en fait.
Mouvements, on fait des mouvements de renforcement musculaire.
Pour
on
que
fait du vélo,
cardiaque,
on fait du
tapis, voilà. Et on la stimule.
On travaille aussi, parce que c'est compliqué. Elle était manifestement en bonne santé, puis elle est passée brutalement dans le statut malade. Donc on travaille aussi la psychologie, l'acceptation de la maladie, l'alimentation. Et donc finalement, c'est un tout.
Et vous pensez qu'elle peut continuer le jardinage?
Ah ben bien sûr, le jardinage c'est un très bon
sport. C'est du sport d'une certaine façon,
c'est une activité physique.
Maintenant, elle est portée quelque chose de très lourd alors qu'on lui a ouvert le sternum pour faire son pontage. Il faut qu'elle attende un petit peu. Mais après la rééducation, elle vit comme tout le monde.
Mmh. Aline Richard, celle-ci, elle est pour vous. C'est Nico au 3921, notre répondeur, qui nous dit « Vous avez parlé d'alimentation tout à l'heure, de super aliments. Vous n'avez pas parlé de gras. Est-il à proscrire dans notre assiette? On dit pourtant qu'il y a des bons gras. » Qu'est-ce qu'on peut lui répondre, Aline
Richard? Alors évidemment, il y a des bons gras. Il faut surtout pas prescrire. Il ne faut pas s'interdire le gras, c'est absurde. Vous savez que par exemple, pour que le cerveau fonctionne, il lui faut des graisses. Après, tout dépend effectivement des graisses. Il est sûr que les graisses végétales dont on a parlé, que ce soit l'huile d'olive, colza aussi, c'est très très bien.
Mais même les graisses animales.
C'est la dose fait le poison, comme on dit. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous mangez de l'entrecôte 2 fois par jour, c'est pas terrible pour vous, pour votre cœur et pour votre santé en général. Mais si c'est de temps en temps, il n'y a aucun problème. Ce qu'il faut faire, c'est en revanche repérer ce qu'on appelle, et c'est pareil pour le sucre, repérer ce qu'on appelle les graisses ou les sucres cachés qui sont dans les aliments, qui sont très transformés par l'industrie, et là, du coup, vous ne savez pas ce que vous prenez. Mais sinon, évidemment, mangeons du gras, et c'est ça qui donne la saveur aux aliments. Et comme l'a dit la professeure tout à l'heure, l'alimentation, c'est du plaisir.
Alors professeur, justement, on a une question pour vous de Simone dans le Loiret sur notre page Facebook qui dit, elle aussi, elle a des problèmes de cœur, de tension, de cholestérol. Elle prend beaucoup de médicaments, 9 comprimés par jour en tout. Est-ce que vous pensez qu'en mettant un peu plus de sport dans sa vie, elle pourrait diminuer le nombre des médicaments?
Alors déjà, le nombre des médicaments, il faut voir si c'est les bons médicaments qui sont bien associés.
9, c'est beaucoup.
Donc
9,
ça commence à faire beaucoup. Et si c'est uniquement pour l'hypertension artérielle, ça justifie de faire un bilan à la recherche d'une cause.
Le cholestérol également.
Alors là, elle doit être un petit peu ronde aussi. Oui, l'alimentation va augmenter l'efficacité des médicaments. L'activité physique va faire perdre du poids. Mm-hmm. Et je dis toujours à mes patients, vous perdez 5 kilos, c'est un médicament antihypertenseur qu'on supprime. Vous mangez normosodé, on économise encore un médicament.
Normosodé, c'est sans sel normalement.
Excusez-moi, c'est 5 à 6 grammes de sel par jour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que rien n'est fixé. Et qu'on peut toujours revenir en arrière à partir du moment où on se prend en charge. Et c'est un chiffre aussi qui doit nous interpeller. La dame qui a fait son infarctus, il y a une étude qui vient de sortir, l'étude ELAD d'AXA Prévention Santé, qui dit que dans 80% des cas, les femmes repoussent leurs soins, ne se prennent pas en charge. Et finalement, c'est bête d'arriver après l'accident. Bien donc, ça. Pour cette dame, cet médicament, si elle trouve que c'est trop...
Neuf même.
Oui. Neuf, elle peut toujours aussi... Et moi, je propose volontiers à mes patients de demander un deuxième avis. Mm-hmm. Parce que parfois, quand on est dans le champ de la maladie chronique, c'est comme dans les mariages.
Oui, puis parfois, le généraliste en a prescrit, le cardiologue en a prescrit d'autres.
Voilà. Voilà. On peut avoir des idées, on peut partager la prise en charge de nos patients. Et comme ça, on n'est que meilleur, en fait.
Une dernière question, peut-être, Mélanie, non ?
Oui, alors il y a Irina également sur Instagram qui demande quel est l'intérêt du yoga dont vous parliez tout à l'heure, de la méditation sur le cœur directement. Je ne comprends pas le lien, elle dit.
Alors, le yoga et la méditation vont mettre au repos cet horrible système nerveux sympathique qui accélère la fréquence cardiaque, qui fait monter la pression artérielle, qui fait sécréter du cortisol, qui fait grossir.
Hormone de stress, hein,
voilà.
C'est ça, de
l'organisme. Et donc, on va mettre en activité le système nerveux qui devrait toujours être là, qu'on appelle le vague ou le parasympathique. D'ailleurs, quand il est trop actif, c'est les jeunes filles qui font des malaises vagaux et qui tombent dans les pommes. Mais il faut... Ces techniques-là permettent de nous remettre en équilibre intérieur et en énergie positive, en fait.
Eh bien, voilà. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux d'avoir été avec nous en studio aujourd'hui pour répondre à nos questions et pour tous vos conseils. Je rappelle bien sûr que le dernier numéro du Figaro Santé avec ses 50 conseils essentiels pour être en bonne santé est d'ores et déjà en kiosque. Alors, n'hésitez pas.
Merci à toutes les deux. À bientôt. Maintenant,
beaucoup.
Julien, on va
merci.
Changer de sujet, même si on reste dans la santé. On se chouchoute aujourd'hui particulièrement et on va se pencher sur la santé des femmes enceintes. À présent, plus précisément, sur ce qu'elles peuvent faire ou non vis-à-vis des médicaments, c'est notre dossier santé du jour.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Alors, pour nous éclairer sur ce sujet du bon usage des médicaments pendant la grossesse, nous accueillons tout de suite le docteur Christelle Ratigné-Carbonneil. Bonjour.
Bonjour à vous deux.
Alors, vous êtes la directrice générale de l'ANSM, l'Agence nationale du médicament, qui a donc lancé cette année une campagne d'information sur le bon usage des médicaments et la grossesse. Une page Facebook aussi a été lancée hier, médicaments et grossesse, avec plein de conseils pratiques. Alors, première question, pourquoi maintenant est-ce que les femmes enceintes ne sont pas assez informées selon vous ?
Alors en effet, nous avions déjà lancé le premier volet en juin et je crois que nous en avions
nous en avons échangé
en effet sur votre antenne, la nécessité d'informer de manière plus précise les femmes et notamment les femmes enceintes ou les femmes avec un désir de grossesse. Nous avons réalisé une enquête en novembre 2019 et en novembre 2020 pour voir aussi l'impact de notamment de la première vague de la crise Covid et on voit que de manière générale, les femmes se sentent informées, mais quand on creuse un petit peu, on a seulement que 3 femmes sur 10 qui considèrent qu'elles sont suffisamment informées de manière précise sur les risques médicamenteux pendant la grossesse. Donc oui, il y a un déficit d'information, et il faut aller au plus près, en effet, des femmes, et pas que des femmes. Et on le reverra, j'imagine, juste après.
Quand on est enceinte, alors pourtant, on redouble de vigilance sur tout ce qu'on consomme, pour protéger son bébé, bien sûr, mais pourtant, il y a de nombreuses femmes qui ont des comportements risqués, parce que vous dites, bon, elles sont informées, pas suffisamment, mais quand on regarde les actes, les attitudes, finalement, il y a des chiffres qui témoignent finalement de beaucoup d'incompréhension ou d'erreurs, en tout cas.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a pu mettre en évidence et qui nous a évidemment interpellés. On a des comportements d'automédication. Alors qu'en effet, lorsque l'on est enceinte, on ne fait pas les choses seule. On demande à son professionnel de santé. C'est une des 4 règles d'or, en effet, de notre campagne. On voit la différence entre premier enfant et deuxième enfant. Et ça s'améliore pas.
Ça s'empire même,
On a 36% des femmes lors du premier enfant qui vont prendre un médicament de leur propre initiative sans demander conseil à leur professionnel de santé. Quand on est sur le deuxième enfant, on est quasiment à 50%.
Parce que elles l'ont fait la première fois, voilà, ça s'est bien passé, donc on prend la confiance.
Voilà, ouais. Tout à fait. Donc c'est vraiment, on lève la main en fait.
Comme on est souvent un peu plus laxiste avec le deuxième, on veut soi-même avec la deuxième grossesse pareil.
Donc c'est en effet interpellant.
Mais d'ailleurs, c'est quoi les principaux problèmes qu'on pourrait avoir si on ne faisait pas attention?
Alors, donc sur les médicaments, les effets que l'on a en effet pendant la grossesse, on a 4 grands risques. Mmh. On a ce qu'on appelle les effets malformatifs. Donc ça va impacter en effet le développement. On va avoir par exemple un bec de lièvre ou alors des anomalies cardiaques par exemple. Là, on est plutôt sur le premier trimestre de la grossesse lorsqu'il y a la formation des organes. Et donc, en termes de médicaments, je pense à la thalidomide, à l'isotrétinoïne, vous savez, pour l'acné, ou le valproate pour anti-épileptique, ou alors aussi certains immunosuppresseurs utilisés notamment lorsque l'on est greffé, le mycophénolate. Ensuite, vous avez les effets phétotoxiques et donc ça va impacter la croissance en effet notamment des organes avec un faible poids à la naissance ou alors des atteintes rénales ou des atteintes cardiaques. Là, on est sur des médicaments assez commun, les fameux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc ça, c'est un petit peu compliqué comme terme. Mais si je vous dis ibuprofène,
ça, bon, on connaît, ça parle à tout le monde. Ouais.
Diclofénac, aspirine,
évidemment.
Forcément.
C'est des choses vraiment qu'on a tous dans notre pharmacie.
Des choses évidemment très courantes. Ou alors des médicaments utilisés dans le cadre de l'insuffisance cardiaque ou de l'hypertension. Donc ce qu'on appelle les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, c'est des mots un peu barbares. Ou notamment des sartans. Troisième type d'effet, ce qu'on appelle les effets néonataux, donc vraiment à la naissance, et qui sont en fait liés soit aux médicaments en tant que tels, ou à la privation, en effet, du médicament pour le bébé auquel il a été exposé pendant la grossesse. Et donc là, c'est plutôt au moment de l'accouchement ou à la toute fin de la grossesse, des antidépresseurs par exemple ou d'autres molécules. Et puis vous avez les effets à distance qu'on ne voit pas à la naissance, mais qu'on voit en effet beaucoup plus tard.
Au moment où l'enfant rentre à l'école,
exactement,
ou des retards,
troubles cognitifs ou autres. Et là, c'est à tout moment. Donc en fait, c'est pas un médicament et à un moment, c'est vraiment être vigilant constamment en effet, sur le médicament et en fonction du moment où on le prend pendant la grossesse.
Une petite idée reçue aussi qui circule, c'est qu'il y aurait des stades de la grossesse où c'est moins grave de prendre tel ou tel médicament.
Non, c'est ce que je viens de dire, malformatif, c'est premier trimestre de la grossesse.
À n'importe quel stade de la grossesse, il peut arriver
deuxième
un pépin.
Deuxième trimestre, troisième trimestre, donc c'est pour ça, on n'est pas seul.
Moi j'avais juste une petite question, quand j'étais enceinte, c'était il y a longtemps, me direz-vous, mais quand même, j'avais l'impression que je pouvais prendre que du paracétamol. C'est vrai ça ou pas ?
Alors, la même chose, en effet, je pense que c'est un sujet où il faut essayer d'aller au-delà des croyances, comme vous l'indiquez là. On se pose la question et on pose la question à son professionnel de santé. Typiquement, l'ibuprofène, c'est compliqué, évidemment, à partir du sixième mois de grossesse, mais même sur le premier et le deuxième trimestre, il faut vraiment être très vigilant.
Il vaut mieux éviter.
Alors, l'objectif, c'est pas non plus zéro médicament. C'est pas
souffrir d'avoir mal au dos quand on est enceinte,
mal à la tête, etc. Mais pour autant, on échange avec son professionnel de santé, son médecin, sa sage-femme, son pharmacien, et on se pose la question. Et pour le paracétamol, oui, on peut le prendre, mais c'est y compris quand on n'est pas enceinte, c'est la dose la plus petite, le moins longtemps possible et le moins fréquemment possible.
Et ben
La bonne façon de faire, en fait.
Mais merci beaucoup, docteur Ratigné-Carbonneil. On reste évidemment encore ensemble. Ne bougez pas, on vous délivre aujourd'hui toutes les précautions à prendre vis-à-vis des médicaments lors d'une grossesse. Car oui, on peut se soigner quand on attend un bébé, heureusement, mais il peut y avoir évidemment des adaptations à faire. Toujours à décider avec un professionnel de santé. On vous explique tout sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1. Bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1 et c'est Bien fait pour vous, votre émission dans laquelle on prend soin de votre santé, particulièrement en ce moment même, on s'intéresse au bon usage des médicaments durant la grossesse, car beaucoup d'erreurs en pratique ou d'idées reçues circulent encore, et donc on fait le point avec le docteur Christelle Ratigné-Carbonneil, directrice générale de l'ANSM, l'Agence du médicament. Alors Christelle, le message principal quand même dans cette campagne lancée par l'agence, c'est enceinte, demandez toujours conseil à un professionnel, quel que soit le comprimé, le sirop, le spray. Mais alors, vers quel professionnel on se tourne en premier recours quand on a une question de ce type ?
Alors, on a la chance en France d'avoir énormément de professionnels de santé de proximité. Vous avez votre médecin général, votre médecin traitant, votre médecin généraliste, vous avez votre sage-femme et vous avez votre pharmacien. Donc, en effet, on a la chance d'avoir ce maillage territorial qui est extrêmement important. Donc, lorsque l'on est à la fois quand on a une prescription, on a une pathologie chronique aussi, puisque voilà, on a le droit d'être enceinte aussi. Hein, lorsqu'on a une pathologie chronique, c'est quelque chose d'important. Mais on n'arrête pas seul son traitement non plus, parce que cela peut être évidemment avec des conséquences importantes. Imaginez une personne qui est traitée pour de l'asthme, elle arrête son traitement, c'est évidemment extrêmement impactant pour elle et évidemment pour le bébé, pour le fœtus. Ou par exemple une personne épileptique ou une personne diabétique, arrêter son traitement en effet antidiabétique toute seule, c'est pas possible. Donc on demande conseil, y compris aussi en automédication, on ne fait pas seul. On va voir son pharmacien, on échange et donc on conseille. Et évidemment les professionnels sont là pour vous conseiller.
Il y a quand même une femme sur deux ayant un projet de grossesse dans l'année qui en fait part à son médecin. Est-ce que vous pensez que les médecins qui suivent ces femmes en âge de procréer devraient avoir toujours ça en tête à chaque prescription ? Parce qu'en fait, elles pourraient tomber enceintes à tout moment, ces femmes-là.
Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle notre campagne est évidemment une campagne destinée aussi au grand public. Donc, je le disais tout à l'heure, aux femmes, mais pas qu'aux femmes, à l'entourage, aux coparents, aux familles, évidemment, et aux professionnels de santé. Et donc, dans les médias, en effet, que nous utilisons, et notamment les nouveaux territoires de communication, puisque là, nous avons une page Facebook, nous avons aussi un partenariat avec des influenceuses sur Instagram, nous avons des podcasts, des interviews, et les interviews sont à la fois des témoignages de patientes, mais aussi de professionnels de santé, de médecins généralistes, de pharmaciens, de sages-femmes, avec deux déclinaisons pour le grand public et aussi pour les professionnels de santé. Bien sûr. Donc les professionnels parlent à leur pair, en effet, et c'est ça qui est important pour être alerte et être vigilant, et également aussi avoir cette consultation préconceptionnelle qui est importante, préparer sa grossesse.
L'anticipation.
Voilà, l'anticipation. Mmh. On est toujours mieux armé. Déjà, quand on échange, on est plus intelligent.
Il y a très peu de situations où on ne pourra pas du tout tomber enceinte, on est d'accord. Il y a toujours une solution, une adaptation à trouver,
exactement.
Mais il faut en parler.
Il faut en parler, notamment sur les pathologies chroniques aussi. On peut envisager d'autres classes médicamenteuses, d'autres médicaments.
Oui, parfois, il suffit de changer la molécule et il n'y a plus de risque pour le bébé.
Et pour cela, il faut en parler et il faut anticiper.
Mais il y a aussi, là, on parle des maladies chroniques, tout ça, mais il y a aussi les maux de la grossesse. Et ils sont nombreux, il y a le nausée, les troubles du transit, le sommeil, tout ça. Alors, je sais que ce n'est pas une maladie, hein, la grossesse, mais quand même, est-ce qu'on peut prendre des médicaments, des choses qui sont autorisées pour ces troubles?
Parce qu'on en a tous chez nous des solutions pour ces petits troubles-là,
oui,
pour le nausée, j'ai ce qu'il faut, pour le mal de dos, j'ai ce qu'il faut.
On ne va pas dans son armoire à pharmacie et on ne va pas piocher en disant ah ben là, oui, je ne me sens pas très bien.
J'ai une ancienne ordonnance.
Ça, on ne fait pas.
Jamais.
Par contre, jamais. On ne fait pas. On va échanger avec son professionnel de santé, possiblement, en effet, de manière très, très aisée, le pharmacien, mais aussi le médecin généraliste ou la sage-femme, et on échange. Et évidemment, l'objectif, c'est ne pas laisser la femme enceinte avec ses migraines, ses maux de ventre ou ses nausées. Mais on se pose la question et évidemment, on échange et on voit ce qui est adapté. Mmh. Et on fait attention à quelquefois, on va dire, des usages, on se dit, oh, tout ce qui est naturel, l'homéopathie, les huiles essentielles, pas de problème. Non. Il faut faire attention.
L'homéopathie,
il y a de l'alcool.
Ah oui.
Il y a de l'alcool dedans. Donc l'alcool, pendant la grossesse, c'est pas bien. Les huiles essentielles, par exemple, la menthe poivrée, qui est utilisée notamment dans le cadre notamment de nausées ou autres, lorsque l'on n'est pas enceinte, c'est un neurotoxique. Donc pendant la grossesse, c'est pas de menthe poivrée.
C'est pas dangereux pour le cerveau du bébé.
Donc il faut échanger avec le professionnel de santé, les experts qui sont là en fait, et qui vous conseillent.
Donc si je résume, docteur, pour toutes les femmes enceintes ou qui comptent l'être bientôt, et les papas aussi qui nous écoutent, on ne prend rien quand on est enceinte sans avis médical.
Mais sans avis d'un professionnel de santé.
Ouais,
voilà.
Donc rien.
Non. Et on lève la main et on se pose la question. Et quand on a une pathologie chronique, on en échange évidemment, on voit ce qui peut être adapté et on n'arrête pas seul son traitement non plus. Non, ça, c'est un point qui est majeur.
On va rentrer dans les bobos de l'hiver, hein, les rhumes, les rhinos, tout ça. On est enceinte, on peut avoir ce genre de problème aussi. On est d'accord parce que ces médicaments, notamment qu'on va prendre quand on n'est pas enceinte, qui sont sans ordonnance. Hein.
Bien sûr,
on en a peut-être à la maison. Je ne vais pas les citer, mais bon, médicaments je parle. Tous ces trucs rapides là, ça on ne prend pas non plus.
Non, on prend pas.
Ce sont des médicaments, même s'ils sont sans ordonnance.
Exactement, ce sont des médicaments. Et donc vous avez l'expert du médicament qui pharmacien. Donc vous avez accès à une officine, on a un maillage territorial important en France, donc vous passez la porte d'une officine qui est toujours ouverte, vous passez la porte, vous échangez, vous indiquez, et le plus tôt possible aussi. On a aussi un usage, aussi en français, on ne dit rien avant les 3 mois de grossesse, on ne dit pas, c'est un usage un peu social, évidemment.
Tant que le risque de fausse couche est un peu plus important, souvent.
Et par contre, à son professionnel de santé, quand on va consulter un dentiste...
De le dire, surtout.
On le dit dès que l'on sait. Voilà, on le dit dès que l'on sait.
Et donc, les compléments alimentaires
Pareil, il faut aussi échanger avec le pharmacien, notamment c'est dans le cadre d'officine, en effet. On échange avec le pharmacien et donc pour avoir ses conseils. On ne fait pas les choses seules. Un verbatim assez simple, on est toujours plus intelligent à plusieurs.
Ça, c'est sûr.
Toujours plus intelligent à plusieurs. Donc, on demande conseil.
Tout à l'heure, vous disiez, évidemment, on a le droit de souffrir d'une maladie chronique et tout d'un coup d'avoir un désir d'enfant, bien sûr. Et donc, on est sous traitement, on se pose la question, on anticipe, d'autant plus qu'il y a quelque chose qu'on ignore parfois, mais il y a des médicaments qui sont, ce qu'on dit, à libération prolongée, qui vont rester longtemps dans l'organisme. Par exemple, on parle de quel type de médicaments? Et pour l'anticipation, du coup, ça peut être combien de temps à l'avance, quoi?
Alors, la majorité des médicaments, c'est en quelques heures ou quelques jours l'élimination. Pour d'autres, c'est beaucoup plus long. Par exemple, si je prends le cas de l'isotrétinoïne, j'en parlais tout à l'heure, le traitement de l'acné, avec des effets malformatifs, c'est un puissant tératogène. Il faut au moins avoir, après l'arrêt du traitement, une contraception d'au moins 3 semaines, le temps de l'élimination complète. Donc c'est important. On a d'autres médicaments, notamment dans la sclérose en plaques, où c'est encore plus long, ça peut être plusieurs mois. Et donc on voit bien que c'est extrêmement important.
Quand on prend un traitement, qu'on a un désir d'enfant, on y va, on fait le point sur combien de temps il faut attendre avant cette grossesse.
Voilà. On est mieux armé une fois qu'on anticipe, en fait.
D'accord.
Donc c'est vraiment, ce sens-là.
Mais parfois, docteur, il est nécessaire d'arrêter complètement son traitement, j'imagine. Dans quel cas, par exemple, et comment on fait alors ?
Toujours la même chose, on échange avec son professionnel de santé, voir si c'est possible d'arrêter, si ce n'est pas possible d'arrêter, de voir quel autre médicament, et on adapte en fait les choses. Et donc on est là en effet pour identifier ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, vers quoi on se retourne en effet en termes de médicaments, ou en termes d'autres thérapeutiques aussi, et on construit en effet on va dire une trajectoire qui permet de pouvoir à la fois évidemment assurer le bénéfice en effet pour la patiente qui notamment a une pathologie chronique et évidemment les bénéfices et limiter les risques pour le bébé.
Sur les médicaments aujourd'hui il y a un pictogramme qui est comme j'allais dire comme sur les bouteilles d'alcool mais oui il y a quelque chose qui prévient effectivement vis-à-vis des risques par rapport à la grossesse. Est-ce que ce pictogramme est suffisant? Est-ce que cet affichage il est perfectible encore? Qu'est-ce qu'on va faire?
Alors c'est un outil parmi d'autres comme à chaque fois en fait. C'est-à-dire que voilà je ne pense pas qu'il existe un outil où c'est l'alpha et l'oméga. Donc c'est un outil parmi d'autres et qui permet d'inciter au dialogue entre le patient et le professionnel de santé. Quand on voit en effet les différents pictogrammes sur la boîte, ça permet en effet de pouvoir avoir ce dialogue et c'est un outil parmi d'autres.
Dites-moi docteur, une question un peu peut-être bête, mais le médicament que prend le géniteur, enfin le papa, est-ce que ça compte?
Oui. Aussi également. Ah bon? Oui, alors oui, parce que si cela en effet.
Tout.
Non, mais non, il n'y a jamais de question bête. Déjà, par définition, il n'y a jamais de question bête. Et en effet, il y a la capacité de cette molécule de traverser, en effet, le sperme notamment, par définition, c'est important. Typiquement, un futur papa qui est traité par testostérone, ça passe en effet au travers du sperme. Et donc, par définition, cela peut engendrer une pilosité excessive pour le futur bébé à naître.
Donc, c'est anticipé à deux. Voilà, ces risques, voilà, des médicaments.
En effet, déjà, évidemment, on en parle dans le couple par définition, donc dans le cas de la coparentalité. Et ensuite, on en échange avec ces professionnels de santé. Toujours la même chose, on anticipe et ensuite cela permet de pouvoir avoir évidemment un développement et une grossesse qui soit le plus serein possible et le plus accompagné.
Très bien, merci beaucoup docteur Ratigné-Carbonneil pour toutes ces précisions sur ce sujet très important. On a bien compris le message et le slogan, enceinte, les médicaments, c'est pas n'importe comment. Pour plus d'informations, je rappelle votre site très bien fait, www.médicamentsaupluriel-et-grossesse.fr. Merci encore docteur.
Oui, merci docteur, il est temps à présent de passer à la partie tendance de Bienfait pour vous avec nos trois chroniqueuses du jour. On aura Marion Sauveur qui va nous donner des conseils pour cuisiner un légume de saison, la courge. Après, Philippine Darblay viendra nous parler art de vivre avec un blaireau, alors pas l'animal, je vous rassure, mais un accessoire un peu désuet pour bien appliquer la mousse à raser qui fait un retour en force. Et enfin, on retrouvera Elsa Lévy qui va nous faire danser vers 12h25. Tous ces bons plans, tous ces conseils, c'est uniquement sur Europe 1.
Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Mélanie Gomez et Julia Vignali.
De retour dans Bienfait pour vous, votre émission bien-être dans laquelle on est très partageuse avec Mélanie Gomez, oui, puisqu'on partage avec vous tous les jours nos bons plans, nos meilleurs conseils pour se rendre la vie plus douce, plus facile. Alors on va se faire du bien pour démarrer avec les bonnes saveurs de Marion Sauveur. Il y a de la courge sur la table aujourd'hui, n'est-ce pas Marion?
Elle était debout, elle est en train de préparer les assiettes, ça va être bon je crois aujourd'hui.
Oui, il y a de la courge, c'est la saison, donc on va en parler bien sûr.
Et on va la manger, merci Marion.
Bon, j'ai une très belle courge moi qui sort de mon potager, j'attends vos conseils avec impatience Marion. Ensuite dans l'ordre, ce sera à votre tour, Philippine Darblay, à la suite, on parlera de mousse, de coupe-choux, mais vous ne parlez pas de cuisine pourtant, c'est ça?
Et non, on va parler d'hommes et de rasage.
Des tendances pour ces messieurs, bien sûr, on ne les oublie pas dans cette émission.
Et puis enfin, on va terminer cette partie de tendance avec les conseils venus d'ailleurs, de loin, même souvent avec vous, Elsa Lévy. On va virevolter du côté de l'Inde, c'est ça?
Voilà, aujourd'hui on part en Inde, je vais vous parler du Bollywood et vous verrez que ce n'est pas que du cinéma.
Ah, génial, merci Elsa. Ça sera avec vous dans quelques minutes, mais avant de danser, de se défouler sur les rythmes endiabés de la musique indienne, on va passer à table tout de suite dans Bienfait pour vous.
Europe 1, Bienfait pour vous. Les tendances.
On débute donc, comme tous les jours à midi, par la chronique gastronomie de cette émission. C'est vous, Marion Sauveur, qui êtes aux manettes aujourd'hui. Avec vous, on voit orange, n'est-ce pas, ce matin?
Et oui, on va cuisiner la courge, un incontournable en automne. Et pourtant, c'était loin d'être le cas il y a une quarantaine d'années en arrière. Elle était considérée comme aqueuse et compliquée à manipuler et à couper. Aujourd'hui, elle a le vent en poupe. C'est sûrement dû, d'ailleurs, au développement de toutes les variétés, comme le potimarron, qui sont beaucoup plus facile à cuisiner aujourd'hui. Et la popularité, bien sûr, de la fête d'Halloween le 31 octobre. Cette fête dont la citrouille est donc le symbole. Autre avantage de la courge, mais cette fois pour les agriculteurs, elle se conserve très bien. Elles sont récoltées avant les premières gelées. Donc en ce moment, certaines sont déjà toutes récoltées. Mmh. Elles peuvent attendre plusieurs mois avant d'être vendues et cuisiner, c'est sûrement ce qui a séduit Christophe Colomb qui nous les a ramenés en fait.
Ils ont tenu le voyage.
Et voilà, d'Amérique centrale, c'est là-bas qu'on les cultivait il y a 12 000 ans déjà, les premières courges.
Alors il y a énormément de courges différentes, de variétés. Moi j'en ai des oranges, des bleus, non mais j'en ai de toutes les couleurs. Comment on fait pour se repérer ?
800 variétés,
plus de 800 variétés. J'en ai 4.
Alors est-ce que vous connaissez la différence entre le potiron par exemple et la citrouille ?
Ah non, moi je sais pas.
Je veux
pas.
Bien un rappel, moi.
Alors déjà, c'est deux familles de courges différentes. Potiron, potimarron, même famille. Ce sont les courges maxima, les courges de forme bien ronde et dodue. Elles peuvent devenir énormes. Et d'ailleurs, la semaine dernière, un Italien a remporté le championnat européen de citrouilles géantes. Devinez combien elle pesait.
Ah oui, je l'ai vue en photo, elle est énorme.
Une tonne de cette
citrouille. Une tonne, mais c'est pas possible. Oh là là, c'est bien mastodonte.
Alors ça, c'était un potiron. Ces courges, elles n'ont pas de chair filandreuse et elle possède un pédoncule arrondi et souple, un pédoncule différent donc des citrouilles ou du pâtisson par exemple, qui sont de la même famille, les Cucurbita pepo. Le pédoncule est dur.
C'était pas facile à dire.
N'est-ce pas ? Alors il est dur.
Essayez,
avec
Julia, s'il vous plaît.
Cucurbita pepo.
Cucurbita pepo.
Pas mal. Ouais, non, non, mais il y a un truc. Et puis la chair de ces citrouilles, ces pâtissons est beaucoup plus filandreuse, comme la courge spaghetti par exemple. Quand vous enlevez cette chair, on dirait vraiment des spaghettis.
C'est vrai.
Essayez avec vos enfants, avec un petit peu de crème et des lardons, ils verront du feu. Mais oui, et attention bien sûr aux courges d'ornement.
Attention, ça se mange pas. Hein.
Ça se mange pas, c'est très toxique et on les repère avec leur goût amer.
Mais je comprends pas, on mange la peau ou on la mange pas ?
Alors ça dépend des courges. tout le problème, alors on mange celle du potimarron, celle des pâtissons quand ils sont très jeunes, donc plutôt petits, et les grosses courges qui ont la peau plus épaisse, plus dure, là on ne la mange pas. Est-ce que vous avez une technique du coup pour éplucher
cette courge ? C'est une galère, moi je trouve. Moi franchement j'y vais à l'arrache et je pense que j'en gaspille pas mal. Je prends un gros couteau et clac clac clac. Clac.
Alors le gros couteau, ouais, c'est une bonne idée.
Énorme. Vous avez une technique, vous ?
Ouais. Alors déjà il faut choisir une courge plutôt ferme et lisse. On suit les rainures naturelles quand il y en a.
Exactement.
Voilà. Un grand couteau à pain c'est l'idéal. On coupe et après on fait des petits morceaux. Mmh. Et quand c'est en petits morceaux, un petit couteau d'office tout simplement, et on l'épluche beaucoup plus facilement. Autre astuce, on la cuit à la vapeur. Ah, et là, c'est
ça,
facile.
Ça s'enlève tout seul quasiment. C'est ce que je préfère comme conseil, c'est vachement mieux. Moi, j'aime bien manier le couteau, simple. Là, un peu, ça me détend.
Faut faire attention de ne pas se couper, quand même.
Bon, alors, maintenant, on l'a bien épluché, la courge, hein, c'est bon, elle est prête. Comment on la cuisine, Marion ?
Alors, une petite recette toute simple à faire.
Moi, j'en ai marre de la soupe, alors.
Alors, on découpe la courge en tronçons d'un centimètre. On enduit cette courge d'huile et d'un mélange d'épices, par exemple, huile d'olive, 4 épices ou du piment d'Espelette. Et on place, vous entendez, dans le
Julia, c'est maintenant.
Et on laisse cuire tout doucement à 150 degrés pendant une bonne heure. Et elle est cuite quand votre couteau entre facilement dedans, vous savez. C'est tout simple, il n'y a vraiment rien à faire. Ça, c'est une version salée, mais la tendance, c'est de la cuisiner en ce moment sucrée. Mm-hmm. On peut l'imaginer en remplacement de carottes dans un carrot cake, par exemple. Oui. Le pâtissier Sébastien Godard à Paris propose à partir de samedi une tarte à la crème de potimarron avec un peu de mélange.
Dont on a quelques extraits ici.
Non, ça, c'est pas un cheesecake.
Alors, je fais passer en tout cas les assiettes, comme ça vous nous expliquerez après ce qu'on a. Allez.
Alors ça, c'est un cheesecake justement de la chef Cybèle Hidlot, citrouille et noix, qui sera à découvrir à la table de Cybèle à Boulogne-Billancourt dès la semaine prochaine. C'est dans les Hauts-de-Seine, ça je vous laisse déguster.
Allez, ça, c'est le cheesecake donc à base de potiron.
C'est ça, de citrouille et noix.
Citrouille, d'accord.
Alors ça, c'est une boisson qui est star aux États-Unis, au Canada, outre-Atlantique. C'est le café latte épicé à la courge.
Oh,
on peut le déguster en France grâce à Starbucks, qu'il propose en version glacée ou chaude. Là, c'est la version glacée. C'est le pumpkin spice latte. Un mélange de lait, de courge, d'épices. C'est assez sympa, hein, à découvrir.
C'est très, très bon, ça. Philippine, vous aimez ça ?
Bah ouais, en fait c'est très frais. Il y a le côté un petit peu végétal, même si on imagine qu'il y a une bonne dose de sucre aussi.
Il y en a. On sent plus la courge. Elle s'est allée vivre, j'aimais bien.
Ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Après, ça me fait penser un peu au carrot cake, par contre, le cheesecake.
Oui, le cheesecake un petit peu. Il y a ce goût encore. On fait même du praliné avec de la graine de courge. On fait, c'est le chocolatier Edward à l'occasion d'Halloween qui fait une tête de citrouille en graine de praliné à la graine de courge. Donc je vous ai mis des
chocolats pour ceux qui veulent l'avoir, puis on la mettra sur nos réseaux sociaux. Elle est très jolie, cette
elle
petite.
Est belle,
c'est très Halloween.
Et vous avez donc ce praliné très gourmand à la courge.
C'est bon, mais qu'est-ce que c'est bon là. Moi, je me suis attaquée au cheesecake. C'est délicieux, Marion. Mais vous en faites, vous, à la maison?
Ah, c'est pas moi qui le fais. C'est Cybèle Hidlot. Il faut aller chez elle à partir de la semaine prochaine à Boulogne-Billancourt. Mais on peut s'amuser vraiment avec
à faire des choses à la maison. Est-ce qu'on peut faire des confitures?
On peut faire des confitures. Il y a un confiturier qui s'amuse à en faire en ce moment. Il en a fait pour la fête de la courge la semaine dernière à Lyon. Et il s'appelle Brunton. Et il fait notamment une confiture potimarron vanille.
Wow.
Je vous la conseille, celle-là. C'est un délice.
Vous la cuisinez, vous? Enfin, vous le cuisinez, le potimarron, Elsa?
En fait, moi, c'est... Je m'arrête au moment où il faut la couper.
Mais non, faut continuer.
Je me fais, voilà. Mais je vais réessayer.
Mais en petite tranche comme ça, au four salé, c'est très simple.
Sans doute, mais j'ai un problème avec les couteaux.
Bon, je viendrai vous l'éplucher, puis voilà, ça sera plus vite. Merci beaucoup Marion pour cette chouette chronique et on a bien pris note de tous vos conseils. Facile à reproduire chez nous, dans nos cuisines, c'est ce qu'on aime ici. Merci beaucoup. Restez avec nous. Là, ce moment-là de l'émission, c'est toujours compliqué. On en a plein la bouche.
Je peux pas vous juger.
Allez, restez avec nous. La séquence tendance va se poursuivre avec encore de nouvelles découvertes, des conseils, notamment ceux de Philippine Darblay qui va nous présenter les nouvelles tendances rasage pour ces messieurs. Et puis Elsa Lévy, elle aussi, elle en a des choses à nous raconter. Elle va nous décrypter l'engouement pour les danses inspirées de Bollywood. Ça va danser sur Europe 1. Alors restez avec nous.
Europe 1, 11h, 12h30.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et notre séquence des tendances se déroule à merveille. Aujourd'hui encore, nos trois excellentes chroniqueuses sont toujours avec nous. Vous avez vu tous les compliments que vous avez. C'est gratuit. La cuisine, la gastronomie, merci. La recette de courge de Marion Sauveur, c'est fait. Et à présent, on va passer du côté de la salle de bain avec vous, Philippine Darblay. On vous écoute.
Alors, c'est vrai que depuis il y a quelques semaines, on parlait des produits de beauté qu'on retrouve dans les hôtels. Et figurez-vous qu'il y en a de plus en plus qui concernent le rasage. Mm-hmm. Alors, c'est vrai que le rasage, ou plutôt la pilosité du visage, c'est un des rares leviers qui permettent aux hommes de vraiment de façonner une gueule, un look et même une humeur d'ailleurs en fonction de tendances, parce qu'il y en a là aussi. Et cet été, j'ai vu de jolis kits dans pas mal d'endroits, dans des hôtels, des maisons d'hôtes, etc., avec des rasoirs en bois et des blaireaux. Alors non, ce n'est pas une insulte, hein, c'est bien le nom de ce pinceau très épais, très joli, un peu rétro. Comme ça. Et du coup, je me suis demandé d'où sortaient tous ces instruments rétro. Qui mieux qu'un barbier pour y répondre? Alors, je me suis baladée dans Paris le week-end et je suis tombée sur un endroit en particulier qui m'a marquée. Alors, à l'extérieur, la devanture est bleu foncé. On lit le barbier des voyeurs, on pousse la porte. Intérieur feutré avec rideau pourpre qui tombe au sol. Sur parquet ancien, des spiritueux pour vous accueillir et les sièges sont séparés pour une totale intimité, ambiance speakeasy.
Peaky Blinders.
Exactement. Alors, le fondateur du barbier des voyeurs, qui s'appelle Tom Usant, était lui expert comptable et il a créé ce lieu suite à des frustrations, hein, parce que pour lui, il n'y avait aucune forme d'intimité dans ces lieux, un sentiment presque à la chaîne, et puis le faire tout en public, c'est un peu chiant quand on a envie de parler de poilonnais, hein, il faut dire. Donc ici, c'est un peu comme chez le thérapeute, nous dit-il, on parle de tout, mais on reste caché. Et quand je l'interroge sur ses outils à l'ancienne, eh bien, il me confirme qu'en effet, c'est une très grosse tendance en ce moment, celle de revenir à des techniques et des résultats d'antan, type barbe rasée à blanc à la...
Mais je vous avoue, j'ai jamais vu mon mari aussi heureux que quand il va chez son barbier le matin. Bah, on dirait qu'il a rendez-vous avec son psy ou je ne sais qui. Et il ressort de là, il est mais épanoui, rayonnant. Il me dit, t'as vu, c'est doux, c'est machin. Je l'ai jamais vu comme ça, je comprends pas.
Et il adapte un petit peu la version Mad Men, rasée à blanc. Ouais. Et ben alors, ce qui est intéressant dans cette technique, c'est surtout qu'il y a tout un rituel. Mais c'est vrai, mais quand on va voir, justement, c'est ça dont j'avais envie de vous parler. C'est tout ce rituel qu'il y a autour de ce rasage à blanc. Alors, on a besoin d'un blaireau, d'un savon à barbe, d'une crème pré-rasage ou de l'eau chaude ou de la vapeur quand on est chez soi. Et ensuite, on fait monter la mousse comme ça en petit cercle, on l'applique et on rase avec un coupe-chou. Alors, attention, ce n'est pas fini.
C'est ça le coupe-chou, hein?
Oui. Ensuite, une fois qu'on a bien tout coupé, on peut, nous, en salon, le refaire une deuxième fois parce qu'on veut que ce soit nickel chrome. Et ensuite, on vient repasser une serviette chaude ou une serviette froide pour venir apaiser les douleurs de la pierre d'Alain, qui permet de refermer les mini-coupures. La pierre d'Alain, c'est très important, ça s'est utilisé depuis 200 ans. Et ensuite, on vient faire un petit massage pour qu'il ressorte tout détendu.
Oh, sans oublier la crème après rasage. Donc, vous voyez pourquoi votre mari est bien.
Mais oui.
C'est parce qu'après tout ce petit chouchoutage, eh ben, du coup, ça détend, hein, ça c'est sûr. Alors après la version gentleman, notre barbier note une deuxième tendance très forte, qui n'a d'ailleurs rien à voir, puisque c'est celle du rasage au naturel.
Ah bah alors, ça n'a rien à voir, on garde la barbe, vous voulez dire ?
Oui, exactement, bah, cette fois-ci, voilà.
C'est une approche complètement opposée, du coup. C'est une autre tendance.
Exactement, c'est une autre tendance. Et là, l'idée est en effet de garder une barbe et d'unifier la jonction entre la peau et le poil grâce à un joli dégradé.
Ah, c'est pas mal ça.
Ouais, voilà, c'est un peu l'effet décoiffé, mais pour les hommes. Ouais.
On a besoin de quoi pour avoir ce résultat, là, justement, d'effet coiffé, décoiffé. Donc, comment vous avez dit
Effet décoiffé,
rasé, décoiffé. Bon, j'ai d'accord, j'ai tout compris. Je vais me renseigner.
En tout cas, bah, on a besoin de choses assez différentes puisque la technique est différente. Donc, d'une paire de ciseaux, d'une tondeuse, ça c'est pour faire la partie dégradée, et même de cire pour enlever le surplus au niveau des pommettes. À noter que la cire, c'est quand même très nouveau pour les hommes. Et d'ailleurs, les produits qu'il utilise sont aussi différents. Voici le détail.
D'abord, on va venir utiliser un shampoing à barbe. Chez nous, on lave la barbe systématiquement pour venir éliminer toutes les bactéries et rendre le poil un peu plus beau, plus doux. Ensuite, on peut utiliser un baume à barbe. Un baume, ça va avoir une texture presque de crème un peu plus dure qui va venir hydrater la peau en dessous parce qu'on oublie qu'il faut l'hydrater. Ça va venir hydrater la peau et le poil. Mais pour se focaliser un peu plus sur le poil aujourd'hui, on utilise de l'huile à barbe. Et là, on vient donner et une bonne odeur à la barbe et hydrater en profondeur le poil.
Et là, ça va encore plus loin parce qu'il colore même une partie de la barbe où il corrige les zones démunies avec des pointes de crayon. Voilà, en conclusion, le but de ces salons, vous l'avez bien compris, hein, c'est de lutter contre des préjugés, des blocages et d'amener les hommes un peu plus à penser à soi. Oui. Et il faut dire d'ailleurs que les femmes et les partenaires plaident la bonne cause.
Ça, c'est sûr.
Tom, justement, nous partage un petit peu les exemples qu'il entend à longueur de journée, les demandes.
Il a des petits poils dans les oreilles, vous pouvez les enlever. Il a des petits poils dans le nez, vous pouvez les enlever. Vous pouvez lui faire la cire au niveau des sourcils.
Bah oui, mais c'est bien, moi, je trouve. Mais il n'y a pas que le rasage qui évolue d'ailleurs dans la beauté des hommes. Il y a aussi d'autres thématiques.
Oui, exactement. Il y a les soins pour visage. Il y a beaucoup de routines qui enfin voient le jour. Et même la manicure et la pédicure sont moins tabous. On en parlera ici, je suis sûre.
Une autre fois, plaisir. Merci beaucoup, Philippine. C'était franchement intéressant ce retour aux sources. Hein. On est content que nos hommes soient rasés de près ou coiffés, décoiffés, peu importe le style. Elsa Lévy, je crois que vous allez finir le bal de façon exotique, puisque on part avec vous à Bollywood. Allez, c'est parti.
C'est ça, je suis allée tester parce que j'avais envie de creuser la question, car quand on dit Bollywood, généralement, on a tous en tête des musiques un peu kitsch. Voilà, des chorégraphies dégingandées et des costumes dont les couleurs décapent la rétine. Alors que pourtant, vous allez voir que le Bollywood, c'est pas seulement des comédies musicales un peu cuculapraline, la praline, non. Le Bollywood, c'est à la fois un sport, car c'est hyper physique, c'est un divertissement, un art et même une thérapie, au point que les cours de Bollywood rencontrent de plus en plus de succès en Europe.
Bon, c'est d'abord, au départ, en tout cas, un genre cinématographique, hein, c'est ça ?
Oui, en fait, Bollywood, c'est la contraction de Bombay, la capitale du cinéma indien, et de Hollywood. Et dans ce genre cinématographique, les danses extravagantes servent la narration du film. Car dans le Bollywood, il faut savoir que chaque geste porte une signification. Ah. Alors que ce soit le mouvement des mains, des doigts, une inclinaison de sourcils, les regards, tout a un sens ou un message. D'ailleurs, à l'origine, dans les danses traditionnelles indiennes, on racontait les histoires des dieux sans barrière de langue, grâce au geste sacré des mains et des doigts qu'on appelle les mudras. Le Bollywood garde certains de ses codes narratifs, mais sans aucune portée religieuse. En fait, le Bollywood, c'est un mélange de 7 danses traditionnelles, de danses folkloriques, de hip-hop, de danses orientales, salsa.
Tout ça, c'est
et moderne.
C'est incroyable.
Jazz, tout
Philippine,
ça.
Vous l'ignoriez aussi.
Oui,
hein,
alors,
comme nous.
Totalement. Effectivement, c'est du sport.
7 danses, incroyable.
Voilà, le tout sur des musiques très joyeuses, ce qui en fait une invitation au lâcher-prise, un booster de morale, au point que le Bollywood peut se transformer en véritable thérapie.
Oui, mais alors comment ça se traduit justement en thérapie, ça ?
Alors, je suis allée à la rencontre de Louba, qui s'occupe de l'association Bolly Divani à Paris. Et il y a quelques années, dans le cadre d'Octobre Rose, l'association a ouvert des cours de Bollywood gratuits aux femmes atteintes d'un cancer.
On a créé les cours d'art-thérapie Bollywood, d'abord car une de nos élèves ne pouvait plus venir en cours car elle avait un cancer du sein et on a trouvé ça dommage d'arrêter. Du coup, on a créé un cours pour elle.
Et... au fil des années, l'association a ouvert l'invitation à d'autres femmes fragiles.
Avec l'art thérapeute de danse Bollywood, on a décidé d'élargir notre champ d'action et de proposer secours aux femmes victimes de violences, aux femmes migrantes et aux femmes vulnérables.
En fait, Louba m'expliquait qu'avec le Bollywood, on reprend conscience des sensations de son corps et on renoue avec soi. C'est en ça que c'est un véritable support d'art-thérapie. Cette danse qui permet de jouer et de mimer les émotions est un chemin pour réapprendre à accepter son corps lorsqu'une femme est atteinte dans son intégrité physique ou morale. À travers des gestuels inhabituels, les femmes accèdent à des mouvements et des ressentis qu'elles ne s'autorisaient parfois plus.
Effectivement, on utilise tous les mouvements du corps, que ça soit la tête, les mouvements de doigts, les épaules, les hanches, les genoux, les chevilles, absolument tout est utilisé. Ça permet de retrouver sa féminité, car la plupart des chansons sont assez féminines et on utilise beaucoup les hanches, les jeux de regard aussi, beaucoup de théâtralité dans la danse.
Et d'ailleurs, dans les chorégraphies Bollywood, on travaille ce qu'on appelle les isolations. Ce sont les mouvements d'une partie du corps indépendamment des autres et dans des rythmiques différentes. Celles qu'on connaît tous, hein, c'est l'isolation de la tête, ce petit mouvement décalé entre la tête et le cou.
Vous faites bien, hein, vous avez testé
ouais.
ou pas parce que...
ouais, j'ai testé, bien sûr. Mais je ne suis pas très pro encore dans l'isolation.
Va, celui-là, vous le tenez pas mal.
En tout cas, avec ces postures atypiques, on se réapproprie l'amplitude de nos mouvements, on dérouille toutes les articulations et on lâche prise. Pour avoir plus d'informations sur le Bollywood thérapeutique et tous les cours que propose Louba, il suffit de taper Bollybox sur internet.
Bon, et est-ce que ce Bollywood, c'est pour tous les publics, je sais pas, pour de 7 à, j'en sais rien, 97 ans si on a envie, oui.
De 7 à, voilà, tout ce ouais. qu'on veut, de zéro même.
Ouais. Les bébés enceintes, on peut
c'est
y aller
tout, enceinte. Ouais. Tous les âges, tous les publics, car en réalité cette danse, c'est un tremplin vers la bonne humeur, donc il y a des centres vraiment partout et bien entendu, les hommes, à barbe ou pas, sont les
qui mangent la courge ou pas,
mais oui, il y a d'ailleurs souvent un jeu de séduction dans les chorégraphies. Mais sur les bienfaits du Bollywood, je laisse juste répondre Indice, une des participantes que j'ai interrogée à la fin du cours.
Et ben, du coup, le Bollywood, en fait, c'est un moment vraiment de joie dans la semaine. C'est vraiment un moment de défoulement. On transpire beaucoup, mais c'est sur des musiques super joyeuses. C'est plein de... Bah, plein de bonne humeur et puis ouais, de joie de vivre complètement. Et puis ouais, bah, c'est une bonne séance de sport. Enfin vraiment, c'est comme si on allait à la salle de muscu, mais en vrai, sur de la musique, c'est comme un cours de fitness ou mais beaucoup plus fun.
Bref, vous l'avez compris, le Bollywood, c'est la thérapie feel-good par excellence. Ici, on danse avec chaque partie de son corps. On danse avec la joie et plus généralement, on danse avec la vie.
C'est bien. Elles sont toutes en train de se dandiner dans ce studio. C'est vrai que je ne sais pas, en tout cas, c'est contagieux, la danse Bollywood. Merci beaucoup, Elsa. Julia, vous voulez qu'on essaye, peut-être ?
Moi, j'ai déjà essayé, ça ne m'a pas réussi. Moi, je bouge mal des yeux, mais j'ai d'autres qualités.
Ah, des yeux, bon, bah, c'est pas grave.
Je m'attendais à tout sauf les yeux.
Moi aussi. Parce qu'on on bouge les yeux dans le
bouge les yeux.
Ah, j'arrive
tout.
Pas.
Oui, elle a dit le regard et tout ça. Ah, donc
ça, c'est déjà un certain niveau. Hein.
Oui, mais je
on commence pas,
pas
avec la gymnastique des yeux.
Je vais faire des trucs super.
Prenez
moi.
Un cours débutant la prochaine fois.
Du ragga dancehall, moi, les filles.
Ah, oui. Je fais ça.
Mais oui, avec plaisir.
Allez, on va tout tester. Merci beaucoup, Elsa Lévy, pour ce voyage dansant très agréable à Bollywood. Merci à toutes les trois pour ces conseils beauté hommes aujourd'hui, ces astuces culinaires, les courges n'ont qu'à bien se tenir. On l'a compris. C'est pas si compliqué que ça à éplucher, hein, ça, voilà, on a donné des astuces simples, très bien. Vous l'avez compris, cette émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouve à 11h. Et Julia, demain, quelle sera notre première question du jour ?
Eh bien, Mélanie, demain, on va s'interroger sur ce thème : comment éviter que l'argent ne brise notre couple ? On va donc mélanger deux sujets sensibles.
Ouais.
Ah, bah oui, dans notre émission, les finances et l'amour. On verra par exemple quel est le meilleur moment dans une relation pour évoquer les questions d'argent. Comment gérer un conjoint très dépensier ou à l'inverse, un peu trop radin, du très pratique pour la paix des ménages au menu.
Et demain, Julia, il y aura aussi de nouveaux sujets tendance, de la gastronomie, toujours de la santé. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos messages sur notre compte Instagram ou sur le répondeur de l'émission au 3921. À suivre, c'est Europe Midi avec Romain Desarbres.